Bonjour à tous, frères et sœurs. Est-ce que vous aimez les westerns? Les bons westerns. Alors le titre que j'ai donné à mon message aurait pu faire, ça aurait pu être le titre d'un western. J'ai intitulé mon message « Duel sur le mont Carmel ». Nous allons bien sûr continuer l'histoire de Élie. Et le sous-titre que j'ai donné, c'est « L'heure du choix ». L'heure du choix. Donc pour situer là où on s'est arrêté la fois dernière, donc voilà plus de 3 ans que la sécheresse dure. La sécheresse est la famine envoyée par Dieu, donc en Israël. Hein. Et c'est envoyé par Dieu comme jugement contre l'idolâtrie du royaume d'Israël. Et donc Dieu avait envoyé Élie annoncer cette sécheresse au roi du royaume du Nord, donc à Akab. Et ensuite Dieu avait dit à Élie, va, cache-toi, donc c'était en 17, verset 3, pour le mettre à l'abri de la haine de Akab, que Akab lui voulait. Mais ce cachet ne dure qu'un temps. Le temps est venu maintenant de dire à Élie, c'est ce que Dieu dit à Élie, bien, va te présenter devant Akab. Le chapitre 18. Un temps pour se cacher, un temps pour sortir de sa cachette et de se montrer au grand jour. Au grand jour. Parce que l'heure du choix est arrivée. Il y a un temps pour tout, nous dit Ecclésiaste 3, verset 1. Et Ecclésiaste 3, verset 7 nous dit qu'il y a un temps pour se taire et il y a un temps pour parler. Et le temps pour parler est arrivé. 1 Roi, chapitre 18. Donc, et on va voir tout chapitre 18. Le texte est assez long, je le prendrai en plusieurs fois. À partir du verset 1. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie la troisième année en ces termes. Va te présenter devant Akab et j'enverrai de la pluie sur la surface du sol. Élie alla se présenter devant Akab. La famine était intense à Samarie. Akab fit appeler Abdias, préposé de sa maison. Or Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Lorsque Jézabel massacrait les prophètes de l'Éternel, Abdias avait pris 100 prophètes, les avait cachés 50 par 50 dans une caverne et les avait nourris de pain et d'eau. Akab dit à Abdias, va par le pays vers tous les points d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe, de sorte que nous garderons vivants les chevaux et les mulets. Nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Ils se partagèrent le pays pour le traverser. Akab alla seul par un chemin et Abdias alla seul par un autre chemin, verset 7. Comme Abdias était en chemin, voici qu'Élie le rencontra. Abdias le reconnut, tomba la face contre terre et dit, « Est-ce toi, mon seigneur Élie ?» Il lui répondit, « C'est moi. Va dire à ton seigneur, voici Élie. » Alors Abdias dit, « Quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab pour me faire mourir ? L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Il n'est ni nation ni royaume où mon Seigneur ne t'ait envoyé chercher. Et quand on disait que tu n'y étais point, il faisait jurer le royaume et la nation que l'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant, tu dis, va dire à ton Seigneur, voici Élie. Puis, lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où. J'irai faire mon rapport à Akab, qui ne te trouvera pas et qui me tuera. Cependant, ton serviteur craint l'Éternel depuis sa jeunesse. N'a-t-on pas rapporté à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tuait les saints ? Les prophètes de l'Éternel. J'ai caché 100 prophètes de l'Éternel, 50 par 50 dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. Et toi, tu dis maintenant, va dire à ton Seigneur, voici Élie, il me tuera. Mais Élie dit, l'Éternel des armées devant qui je me tiens est vivant. Aujourd'hui, je me présenterai devant Akab. Abdias, étant allé à la rencontre d'Akab, lui fit son rapport. Alors Akab se rendit à la rencontre d'Élie. Lorsqu'il aperçut Élie, Akab lui dit, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» Élie répondit, « Je ne trouble pas Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu t'es rallié au culte des Baals. Envoie maintenant rassembler tout Israël auprès de moi au mont Carmel, ainsi que les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Akéra qui mangent à la table de Jézabel. » Akab envoya des messagers vers tous les Israélites et rassembla les prophètes au mont Carmel. Verset 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, ralliez-vous à lui. Si c'est Baal, ralliez-vous à lui. Le peuple ne lui répondit rien. Jusqu'ici pour le moment, la parole de Dieu. Un texte où qui met en évidence que Dieu continue de se révéler. On a vu combien, la fois dernière, Dieu se révèle par sa parole, par les promesses qu'il fait. Ici, Dieu va se révéler de façon extraordinaire. Et dans ce texte que nous voyons aujourd'hui, eh bien, Dieu se révèle comme étant le seul vrai Dieu et un Dieu jaloux. Et par conséquent, eh bien, il va falloir choisir. Et ça sera donc le premier point de mon message. Ça sera l'heure du choix. L'heure du choix avant quoi ? Avant la confrontation. Deuxièmement, nous verrons la confrontation en elle-même. Et troisièmement, nous verrons la victoire du vrai Dieu qui se révèle. Et qui est le vrai héros de l'histoire. Dans des westerns, il y a des héros. Là, ce n'est pas une fiction, c'est vraiment une histoire qui est vraiment arrivée. Et qui avère que le vrai héros de l'histoire, c'est Dieu. Donc, voici donc. Donc le temps est arrivé maintenant de la confrontation, mais avant la confrontation, il va falloir choisir. Et après la confrontation, il y aura la bénédiction. Mais avant tout cela, il va falloir choisir. L'heure du choix est arrivée pour tous, tous ceux qui hésitent encore entre le vrai Dieu et les idoles et leurs prophètes. Donc mon premier point, l'heure du choix avant la confrontation. Élie, on l'a vu jusqu'à présent, il a toujours obéi à Dieu et il est toujours prompt à obéir à ce que Dieu lui dit. Il se met en route pour aller voir le roi Akab et malgré l'extrême danger que représente ce roi. Ce roi, on apprend ici dans ce texte-là, qui cherche à lui nuire et à le réduire au silence. Mais ça n'arrête pas Élie, malgré l'extrême danger. La foi vivante d'Élie au Dieu vivant sera la plus forte. La foi vivante d'Élie au Dieu vivant sera la plus forte. Mais on voit que la sécheresse bat son plein, et alors que la sécheresse bat son plein, Akab, lui, il se préoccupe plus de ses chevaux que de la misère de son peuple, puisqu'il va se mettre en recherche de pâturage avec son serviteur Abdias, à la recherche donc de pâturage, où il y a de l'eau, pour ses chevaux. Il n'est pas question de son peuple ici. Alors Abdias, on va s'arrêter sur lui, s'il ne s'agit pas du prophète Abdias qu'il y a dans la Bible, ce n'est pas le même. On va s'arrêter un peu plus sur lui. Akab et son serviteur Abdias donc se séparent, chacun son chemin pour parcourir le pays et trouver de l'eau, des pâturages, versets 5 et 6. Et voici que Élie va tomber sur Abdias. Abdias qui le reconnaît, il était connu Élie. Abdias qui sait que Élie c'est un homme de Dieu. Et voilà que Élie lui demande sans ménagement, verset 8, « Va dire à ton Seigneur, voici Élie. » Et là, panique. Abdias panique. Parce qu'il il doit choisir. Obéir ou pas. Il a peur. Il a peur, Abdias. Il craint que son roi, son maître, Akab, ne le tue. Au cas où il ne trouverait pas Élie si celui-ci avait été enlevé par l'Esprit du Seigneur, verset 12. Donc Abdias, il panique à l'idée d'aller voir Akab. Pourtant, il nous est dit que, un point positif, Abdias craignait beaucoup l'Éternel, verset 3. Et d'ailleurs, il le dit lui-même au verset 13. Mais le choix est difficile pour lui. Le choix est difficile pour lui. C'est intéressant parce que j'ai relevé quelques points communs entre Abdias et la veuve de Sarepta qu'on a vu la semaine dernière, au chapitre 17. Comme la veuve, il a été convaincu de péché, Abdias, en la présence de Élie, l'homme de Dieu. Verset 9, je relis. « Alors Abdias dit, quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab pour me faire mourir ?» Donc Abdias, il a été convaincu de péché. Comme la veuve, Abdias ne connaissait pas encore le Dieu d'Élie comme son Dieu. Il dit au verset 10, « L'Éternel, ton Dieu est vivant. » Il ne dit pas « L'Éternel, mon Dieu ». Comme pour la veuve de Sarepta, la veuve de Sarepta avait rendu service à Élie en l'hébergeant et en le nourrissant. Eh bien, comme pour la veuve de Sarepta, nous apprenons qu'Abdias, il a sauvé et il a nourri quelques 100 prophètes de l'Éternel lorsque Jézabel, la femme d'Akab, massacrait les prophètes de l'Éternel, verset 4. Et il fallait quand même beaucoup de courage. Il fallait beaucoup de courage pour cacher 100 prophètes de l'Éternel. C'était quand même... il risquait sa vie, là. Mais pourtant... Le vrai Dieu n'était pas encore le Dieu de Abdias. Pourtant, malgré que Abdias est connu, il a vaincu la protection de Dieu. Malgré cela, le Dieu d'Élie, le vrai Dieu, n'était pas encore devenu son Dieu. Comme quoi, on peut faire beaucoup de bonnes choses pour Dieu. La veuve a hébergé Élie. Abdias a caché 100 prophètes de l'Éternel. On peut faire beaucoup de bonnes choses pour Dieu, mais ne pas l'avoir encore pour son Dieu personnel. Parce qu'il faut choisir, il faut le vouloir. La veuve de Sarepta, on connaît l'histoire, elle a fait confiance à la parole de Dieu qui a fini par devenir son Dieu. Abdias, il y a beaucoup d'hésitations. Où est le problème chez Abdias? En creusant, bien le problème chez Abdias, c'est qu'il est partagé. Abdias, c'est quelqu'un qui cloche des deux côtés. Et quand est-ce qu'on commence à avoir peur? Quand nos pas ne sont pas assurés. La peur vient quand on n'arrive pas à se décider, quand on n'arrive pas à faire un choix. Et c'était le cas pour Abdias. Abdias, il est dit de lui qu'il craignait beaucoup l'Éternel, mais il craignait aussi Akab. Et là, il est devant un choix. Qui craignait-il le plus? Proverbe 29, verset 25 nous dit « La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. » Proverbe 29, verset 25. Abdias, il clochait des deux côtés. Abdias n'a pas eu le courage. Il a eu le courage de protéger son prophète, mais il n'a pas eu le courage de se séparer de son mauvais maître, Akab. C'était vraiment un des plus mauvais rois. Pourquoi? On peut se poser la question, pourquoi n'a-t-il pas fait le choix de se séparer d'Akab? Est-ce que c'était par intérêt? Est-ce que c'était pour garder un certain prestige à la cour du roi? Il était quand même son serviteur. Était-ce par crainte de perdre son emploi? Ce sont autant de questions qu'un chrétien peut se poser. Est-ce qu'il vous est jamais arrivé d'avoir un cas de conscience dans votre travail ou ailleurs? Autant de questions qu'un chrétien peut se poser face à un cas de conscience qui le met devant un choix qui est difficile, se séparer ou pas de ce qui peut nous, de ce qui nous éloigne de Dieu. Ça demande évidemment de calculer la dépense, mais ce récit, il est là pour nous aider à faire les bons choix, pour nous encourager à faire les bons choix, même s'ils sont difficiles. J'ai un petit témoignage, peut-être je vous l'ai déjà partagé, mais je me souviens, lorsque je venais d'être embauché, c'était en début des années 2000, je crois, lorsque je venais d'être embauché dans une société de services en informatique, eh bien, une société de service, c'est quelqu'un qui vous envoie chez un client. Et le premier client qu'on m'a proposé, le premier, hein, c'était la Française des Jeux. Et là, j'étais devant un cas de conscience. Parce que je ne voulais pas encourager le jeu d'argent chez les gens. C'est à la fois, c'est encourager les gens à dépenser de l'argent. En plus de ça, des jeux de hasard. Et je ne voulais pas encourager ça. Donc, j'étais devant un cas de conscience, mon premier contrat. Et j'ai choisi de refuser. Et je m'attendais alors à ce que prenne fin le plus court contrat de ma carrière. Merci, au revoir monsieur. Mais pas du tout. L'employeur m'a dit, mais très bien, monsieur, il s'agit qu'on respecte les convictions de nos collaborateurs. Alors si vous voulez, on va vous proposer autre chose. C'est là qu'on va vous proposer une caisse de retraite comme un client. Et là, pas de problème, j'ai accepté. Mais il fallait faire un choix. Et là, c'était vraiment, je ne m'attendais pas du tout à ce choix-là. Alors voilà, donc, Abdias, il va y aller quand même. Il va aller voir le roi Akab. Pourquoi? Parce que Élie l'a rassuré. Élie, il est déterminé à aller voir Akab, et Élie lui promet que le jour même, il va se présenter devant Akab, verset 15. Voilà de quoi rassurer Abdias. Et donc voilà Abdias qui va faire son rapport à Akab, et qui se rend à la rencontre d'Akab, et Akab, entendant cela, il va se rendre à la rencontre d'Élie. Verset 16. Et voilà les deux hommes face à face. Akab face à Élie. Élie face à Akab. Et Akab, il accuse. Il accuse Élie d'être un fauteur de troubles en Israël. Alors que c'est Akab qui est responsable du jugement de la sécheresse et de la famine sur tout le pays, parce qu'il est un mauvais roi. Et là, on est devant l'exemple type de quelqu'un qui est inconscient de sa responsabilité dans les malheurs qui lui arrivent et qui arrivent à son entourage. Là, ça arrive sur tout le pays. Il ne voit pas, il ne comprend pas que c'est Dieu qui l'a jugé, lui et tout le peuple, en envoyant la sécheresse. Et que Élie, au final, il n'est qu'un instrument entre les mains de Dieu. Et quel instrument, puisqu'Élie, c'est un homme de prière. Élie a collaboré avec Dieu. Alors c'est une réaction naturelle, n'est-ce pas? Lorsque des malheurs nous arrivent, d'accuser les autres, au lieu de nous examiner premièrement. Quelle est ma part de responsabilité? Ça peut être l'autre qui est responsable. Et si l'autre ne le voit pas, faisons comme Élie, prions pour que Dieu lui ouvre les yeux. Et qu'il nous ouvre aussi les yeux sur nous-mêmes. Alors Élie renvoie à la figure d'Akab ses propres paroles. Élie accuse Akab d'avoir abandonné le culte du vrai Dieu au profit du faux Dieu Baal. Baal, c'était le Dieu principal de la religion cananéenne. Alors, Élie lance le défi à Akab. Quel défi? De convoquer les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Akéra, 850 prophètes. Contre qui? Contre lui seul. Se mesurer à lui seul dans un duel, le duel sur le mont Carmel. Et le Carmel, c'était le mont où on sacrifiait pour Baal. Élie n'hésite pas à confronter les faux prophètes sur leur propre terrain. Petit rappel, Élie était un homme de la même nature que nous, chaque 5, verset 17. Ce n'était pas un superman. Mais il priait, c'était un homme de prière, et on va le voir. Voilà donc que le duel sur le mont Carmel se prépare. Alors Élie fait convoquer non seulement les prophètes sur le mont Carmel, mais aussi tout le peuple, pas seulement pour être spectateur, mais pour mettre tout le peuple devant un choix entre l'Éternel et Baal. L'heure du choix est arrivée. Et vous avez remarqué, c'est avant la confrontation que Élie met le peuple devant un choix. C'est avant ce qui va être spectaculaire. Ce qui va suivre, c'est avant que Élie met le peuple devant un choix. Et regardons ce verset 21. Vous avez remarqué l'expression Élie demande au peuple, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Le verbe clocher des deux côtés peut aussi se traduire par combien de temps hésiterez-vous des deux côtés? Et c'est toujours le même problème, l'indécision du peuple. Et l'indécision a des conséquences. Pour Abdias, l'indécision avait entraîné quoi? Avait entraîné la peur. Pour le peuple, l'indécision entraîne le silence. Fin du verset 21, le peuple ne lui répondit rien. Effectivement, c'est tellement plus facile que de prendre position. C'est tellement plus facile de se taire. Sauf que ne pas se décider, ne pas prendre position, ne fait qu'entraîner l'instabilité. Peut entraîner la chute par manque de stabilité. On peut encore traduire le verset 21, donc le verbe clocher-vous des deux côtés, on peut encore traduire par combien de temps boiterez-vous des deux côtés. Il n'y a pas de stabilité. L'indécision entraîne de l'instabilité. Et imaginez quelqu'un qui a un pied dans une barque qui est près du quai et l'autre pied sur le quai. Et petit à petit, la barque s'éloigne du quai. L'homme, il hésite. Aller sur la barque ou rester sur le quai? S'il ne se décide pas, qu'est-ce qui va se passer? De toute façon, il va tomber à l'eau. Alors, il faut choisir. Donc l'heure du choix est arrivée, et après l'heure du choix vient le moment de la confrontation. Mon deuxième point, le moment de la confrontation. Je continue ma lecture, on s'est arrêté au verset 21, je continue à partir du verset 22 du chapitre 18. Élie dit au peuple, « Je suis resté moi seul prophète de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. » Que l'on nous donne deux taureaux, qu'ils choisissent pour eux un taureau, qu'ils le découpent et qu'ils le mettent sur le bois sans y mettre le feu. Quant à moi, je préparerai l'autre taureau, je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu. J'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Tout le peuple répondit, d'accord. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous un taureau, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux. Invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant « Baal, réponds-nous » Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qui les avait fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit « Criez à haute voix puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. » Peut-être qu'il dort et qu'il se réveillera. Ils crièrent à pleine voix et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Verset 29. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Alors Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Élie prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui la parole de l'Éternel avait été adressée en ces termes, « Israël sera ton nom. » Il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. Il arrangea le bois, découpa le taureau et le mit sur le bois. Puis il dit, « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'Holocauste et sur le bois. » Il dit, « Faites-le une seconde fois. » Ils le firent une seconde fois. Il dit, « Faites-le une troisième fois. » Ils le firent une troisième fois. L'eau coula de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on reconnaisse aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, ô Éternel, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Je m'arrête là pour le moment. Donc on est là dans la préparation de la confrontation. Dans un combat à la loyale, dans un duel, il y a des règles. Et là, c'est Élie qui est à l'initiative de ce duel, qui va édicter les règles. Les règles, ça sera 2 taureaux qui devront être sacrifiés sur le bois sans y mettre le feu. Chacun invoquera son Dieu, et le Dieu qui répondra par le feu sera le vrai Dieu. Et là, le peuple sort de son silence. Il répond, d'accord, verset 24. D'accord, on verra bien. Beaucoup pensent comme ça. Mais c'est avant de voir qu'il faut se décider. C'est avant de voir qu'il faut se décider. Ils n'ont pas encore vu le spectaculaire extraordinaire. Élie, en vrai gentleman, il laisse les prophètes de Baal beaucoup plus nombreux. Hein. Lui, il est tout seul, ils sont 450, les prophètes de Baal. Il va laisser les prophètes de Baal commencer. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont invoquer leur Dieu toute la matinée. Mais, verset 26, il n'y eut ni voix, ni réponse. Alors à midi, il a quand même fait durer, à midi, Élie se moque d'eux. Il se moque d'eux, verset 27. Il se moque d'eux et de leur idole. Et je paraphrase ce qu'il dit. Peut-être Baal ne peut-il pas faire 2 choses en même temps. Il est occupé, donc il ne peut pas faire 2 choses en même temps. Peut-être Baal ne peut pas être présent en même temps, partout. S'il est en voyage, il ne peut pas être en voyage ici. Peut-être qu'il dort, qu'il n'a pas fini de dormir. Quelle ironie, hein. Élie n'hésite pas. Alors, désespérés du silence de Baal, les prophètes crient. Ils vont même se scarifier jusqu'au sang, avec des lances et des épées. Ils vont faire couler leur propre sang. Ils s'agitent. Mais de nouveau, verset 26, il n'y a ni voix ni réponse. Verset 29, il n'y a ni voix ni réponse, ni signe d'attention. Le Dieu des faux prophètes, il est resté sourd et muet. Et le psaume 115, verset 4 à 8, nous dit justement, qu'est-ce que c'est qu'une idole? Je vais lire, hein. Ne le cherchez pas, je vais lire psaume 115, versets 4 à 8. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Et verset 8. Il leur ressemble ce qui les fabrique, tout ce qui se confie en elles. Il leur ressemble. Vous vous rappelez le silence du peuple quand Dieu a mis le peuple devant un choix? On comprend pourquoi ils sont restés dans le silence. Ils ressemblent à leur idole qui ne parle pas. Ils sont restés dans le silence de l'indécision. Ils ressemblent à leur faux Dieu qui ne parle pas, qui n'entend pas. Alors que notre Dieu, le vrai Dieu, il parle. Il se révèle par sa parole dans la bouche de son serviteur Élie. Il ne reste pas en silence. Tout le contraire de Baal. Dieu n'est certainement pas en vacances. Il n'est pas non plus en voyage. Il peut être partout. Il est bien présent pour son peuple. Je citerai psaume 121, verset 4. Ô combien encourageant pour nous tous. Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël, le vrai Dieu. Psaume 121,4. Voilà donc, les faux prophètes, ils ont fait leur démonstration, zéro, ça n'a rien donné. Voilà maintenant le tour d'Élie, le prophète du vrai Dieu. Et là, vous avez remarqué, mais quel contraste entre la peur d'Abdias et l'assurance d'Élie, qui est prêt à confronter le mensonge d'Akab et des 450 faux prophètes. Quel contraste entre l'agitation des faux prophètes et le calme et l'autorité d'Élie. Lui ne crie pas. Lui ne cloche pas des deux côtés. Mais il a ses pieds fondés sur le vrai roc, sur le roc qu'est le vrai Dieu, et en qui il a toute confiance. Akab, il ne stresse pas, il prend le temps de préparer l'Holocauste. Il va prendre le temps de préparer. Et par quoi commence-t-il ? Il va commencer par rétablir l'autel de l'Éternel. Il fait les choses dans l'ordre. Il va prendre soin de l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Et ce qu'il fait, c'est très symbolique ce qu'il fait là. Il ramasse 12 pierres qui représentent les 12 tribus d'Israël, à qui Dieu avait dit « Israël sera ton nom, les 12 tribus d'Israël ». Et Élie bâtit cet autel au nom de l'Éternel. Verset 31-32. C'est un rappel aux yeux de tout le peuple que Dieu veut qu'Israël forme un seul peuple, alors qu'il y avait eu un chiffre entre le nord et le sud. Dieu veut que son peuple forme un seul peuple qui n'a qu'un seul Dieu, l'Éternel. Malgré le schisme entre le nord et le sud, malgré l'idolâtrie, qui n'en doutons pas à attrister Dieu, mais Dieu veut ramener son peuple à lui. Alors, on peut penser aujourd'hui, si on ramène ça aux églises aujourd'hui, il y a beaucoup, l'église du Seigneur, elle est très diverse et variée, et parfois, malheureusement, il y en a qui sont divisées. Certaines, en tout cas. Il y a plusieurs dénominations qui toutes confessent Christ. Enfin, en tout cas, parmi toutes celles qui confessent Christ, mais qui parfois sont divisées. Mais Dieu ne voit qu'une seule église. C'est la sienne, de qui il a dit « Je bâtirai mon église ». Est-ce que nous aussi, nous voyons son église, aussi diverse et variée comme cela, même s'ils ont une forme différente de culte, ben, ils confessent le même Seigneur, Jésus. Là, dans ces préparatifs, on voit toute la miséricorde de Dieu. Déjà, malgré l'idolâtrie d'Israël, Dieu va montrer qu'il n'a pas abandonné son peuple. Malgré son manque de foi, malgré son hésitation. Dieu se révèle déjà comme un Dieu miséricordieux. Mais pas seulement, dans tout ce qui va suivre. Dieu va se révéler comme le seul vrai Dieu, qui est tout-puissant, omnipotent, qui est omniscient, qui sait tout, qui est omniprésent, qui peut être partout. Dieu va se révéler aussi comme étant, bien sûr, le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible. En effet, regardez comment s'y prend Élie. Pour mettre en évidence le côté miraculeux de ce que Dieu peut faire, le vrai Dieu, eh bien Élie va faire arroser le taureau et le bois qui repose sur l'autel de 3 fois 4 cruches d'eau, 12 cruches. Au point que l'eau va déborder jusqu'à remplir le fossé que Élie a fait creuser tout autour de l'autel. Et qu'est-ce que fait Élie ? Eh bien, le passage s'est terminé par que je me suis arrêté à sa prière. Élie a prié. Et n'oublions pas ce point. Élie était un homme de la même nature que nous. C'était un homme de prière. Il prie avec insistance, verset 37. Je continue ma lecture, verset 38. Toujours le verset, donc 1 Roi, chapitre 18, à partir du verset 38. Et je lirai jusqu'à la fin du chapitre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après la prière d'Élie, donc, hein ? 1 Roi 18, 38. Alors, le feu de l'Éternel tomba. Il consuma l'Holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent la face contre terre et dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu !» Élie leur dit « Saisissez les prophètes de Baal, qu'aucun d'eux n'échappe !» Ils les saisirent, Élie les fit descendre au torrent de Kishon, où il les égorgea. Élie dit à Akab « Monte, mange et bois, car ce grondement, c'est la pluie. » Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se courba contre terre. Se courbant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son jeune serviteur, « Monte donc, regarde du côté de la mer. » Celui-ci monta, il regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit 7 fois, « Retourne. » À la 7e fois, il dit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer. Il est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte et dire à Akab, attelle et redescends, afin que la pluie ne t'arrête pas. » De toutes parts, le ciel devint noir de nuages, le vent se leva, et il eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jisréel. La main de l'Éternel fut sur Élie, qui mit une ceinture à ses reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jisréel. Amen. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Mon troisième point, après l'heure du choix, après la confrontation, eh bien nous voyons la victoire. La victoire du vrai Dieu qui se révèle être le vrai héros de l'histoire. Ce n'est pas Élie le héros, c'est Dieu. Et Élie lui a fait confiance. La victoire du vrai Dieu qui se révèle être le vrai héros de l'histoire. Dieu se révèle, et là de façon miraculeuse. Il se révèle, il répond, vous avez remarqué, presque aussitôt à la prière de son serviteur. Contrairement au silence de Baal, qui n'avait donné aucune réponse, ni signe d'attention, que ses prophètes avaient tout de même prié toute la matinée. Et pour cause, Baal, c'est un faux Dieu, qui plus est, un faux Dieu qui n'existe pas. Alors que le vrai Dieu, ça ne s'en est jamais occupé chez lui. Il répond à la prière de ses enfants, pas besoin de crier, ni de s'agiter, ni de se faire saigner pour qu'il entende. Le feu consuma non seulement l'Holocauste, mais le bois, la pierre, la terre, et surtout l'eau, l'eau que Élie avait fait verser abondamment, l'eau qui était mise dans le fossé. Dieu se révèle. Il se révèle comme étant le Dieu créateur, tout puissant. C'est lui qui est maître du feu et de l'eau, parce que c'est lui qui a créé les éléments. Dieu se révèle comme étant le Dieu créateur. Et vous vous rappelez, on l'a vu tout à l'heure dans la prière d'Élie, Élie n'a pas seulement prié pour que Dieu embrase l'Holocauste, mais Élie a prié au verset 37 que Dieu ramène le cœur du peuple à lui. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Dieu a prié pour que Dieu ramène le cœur de son peuple à lui. Qu'il embrasse son cœur, pas seulement l'Holocauste. Et c'est ce qui s'est passé puisque par 2 fois, le peuple va crier après avoir vu l'Holocauste s'enflammer. C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, verset 39. Ouf. Le culte de l'Éternel est rétabli et sauvé. Dieu s'est révélé miraculeusement au peuple. Et on voit toute sa miséricorde, malgré les hésitations du peuple qui voulait voir avant de croire. Il a vu, il a vu. Malgré le silence du peuple, Dieu s'est révélé. Le peuple a vu les miracles et là, il n'y a plus d'excuses. Ils ont vu, il n'y a plus d'excuses pour ne pas revenir à Dieu. Mais la suite du livre nous apprend que ça ne durera pas. L'idolâtrie reprendra, continuera par la suite. Pourquoi ? Parce que le cœur du peuple avait besoin d'être changé, comme le nôtre. Alors Dieu n'a pas fini de se révéler. Il se révélera de nouveau. Et cette fois pour nous tous, pour changer véritablement notre cœur et le ramener à lui. Dieu se révélera par un autre holocauste, lorsqu'il enverra un autre holocauste. Il y avait une préparation pour cet holocauste. Et Jean-Baptiste, il est aussi appelé Élie qui devait venir. Élie a préparé le chemin du Seigneur. Élie, ici, dans l'Ancien Testament, a préparé l'Holocauste. Dieu enverra cette fois un autre Holocauste sur un autre bois, qui sera le bois de la croix. Il s'agit bien sûr de son propre fils Jésus. Par qui Dieu se révèle ? Par qui Dieu se révèle ? Il continue de se révéler. Vous avez remarqué, les adorateurs de Baal se sont fait eux-mêmes des incisions. Ils se sont scarifiés se sont fait saigner pour que Dieu les écoute. Jésus a été frappé d'une lance et a versé son sang. Il ne s'est pas scarifié, il a laissé les autres. Le clou est sur une croix pour que ce sang coule. Il a versé son sang à notre place. Le vrai Dieu, il est resté sourd. On peut dire, il entendait, mais il n'a pas répondu. Il est resté sourd à la prière de son fils sur la croix lorsque son fils a crié « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'était que pour un temps, bien sûr. Dieu est resté sourd à la prière de son fils pour ne plus jamais être sourd à nos prières. À la prière de tous ceux qui ont placé leur confiance en lui pour être pardonnés de nos péchés, de leurs péchés, de nos péchés. Le seul qui ne méritait pas de mourir parce qu'il était sans péché, il acceptera pourtant de mourir en étant puni à notre place. Le feu a consumé miraculeusement l'eau. Eh bien, Dieu ramènera miraculeusement son fils à la vie en le ressuscitant 3 jours après. Dans 2 Corinthiens, je vais lire un passage dans le chapitre 1, versets 18 à 20, il nous a dit que Jésus, il est le oui de Dieu, le oui de Dieu pour nous. Il est l'amen de Dieu pour nous, pour faire de nous son peuple, ses enfants. Et je vais vous lire 2 Corinthiens 1, chapitre 1, versets 18 à 20, de l'épître de l'apôtre Paul, donc dans la parole de Dieu. Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu, le Christ Jésus qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi, par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais en lui, il n'y a que oui. Toutes les promesses de Dieu sont ce oui en lui. C'est donc aussi par lui que nous disons à Dieu l'amen pour sa gloire. Jésus est le oui de Dieu pour nous. Il est l'amen de Dieu pour nous. Dieu nous a dit oui par Jésus, mais il attend quelque chose de nous en retour. En retour, il attend de nous un oui sans partage, un amen face à ce qu'il a fait en son fils. Non, le vrai Dieu ne partage pas sa gloire avec les faux dieux, qui plus est, qui n'existent pas, qui sont fabriqués par la main des hommes. Les faux dieux, que les hommes qui se font leur propre vérité, selon ce qui leur convient, en prenant un peu d'une religion par-ci, un peu d'une religion par-là, ils se font leurs propres idoles. Mais Dieu ne partage pas sa gloire. On l'a vu dans ce récit. Alors si vous ne l'avez pas encore fait, eh bien dites-lui, amen, oui Seigneur, tu es le seul vrai Dieu, prends mon cœur, embrasse-le. Vous avez remarqué, c'est avant la confrontation qu'Élie a mis le peuple devant un choix. Nous sommes encore dans le temps de la grâce. Ce temps va se terminer lorsque Jésus reviendra, cette fois-ci, non plus comme un petit bébé, mais pour juger le monde. Et c'est donc avant son second retour qu'il faut se décider. Dieu a montré toute sa miséricorde. Il l'a montré déjà dans ce récit, dans l'Ancien Testament. Il l'a montré encore en Jésus. Il viendra un temps où le monde sera jugé. Et c'est avant qu'il faut se décider. Et là, bien sûr, il y en a, bien sûr que nous sommes son Église. Nous qui l'avons accepté, Jésus, peut-être vous êtes quand même parfois, vous traversez des moments où vous êtes amer. Vous vous dites à quoi bon ? On est dans un monde qui va de mal en pire. On a entendu un reportage terrible sur la prostitution des mineurs dans notre pays. Des enfants sans famille. On se dit peut-être à quoi bon ? Peut-être vous-même vous souffrez personnellement. Et peut-être que vous avez choisi de vous résigner en étant dans l'amertume, même si vous êtes un enfant de Dieu. En vous disant de toute façon, il est trop tard. Le mal est beaucoup trop avancé. C'est ce qu'on entendait dans ce reportage. C'est une gangrène. Comme la drogue. Le mal est beaucoup trop avancé. Ils sont beaucoup trop nombreux. Il y a cette possibilité donc de se résigner en ayant l'amertume dans le cœur. L'autre possibilité, et c'est là où Élie est un exemple pour nous, eh bien c'est de se battre. C'est de combattre le bon combat. Combattre avec les armes de Dieu, je précise. Élie, c'était un homme de Dieu, de la même nature que nous, Jacques 5, verset 17. Et il n'a pas hésité à se confronter lui seul contre les 450 faux prophètes. Et c'est une histoire vraie, c'est pas de la fiction. Quelle était son arme ? Qui est aussi la nôtre, c'était la prière. La prière et la foi inébranlable en Dieu et en sa parole. Alors, ne nous lassons pas de prier, Pour ceux de notre entourage qui sont encore indécis, les indécis se taisent. Alors que le vrai Dieu, on le confesse oralement devant les hommes. Je vous lis 2 Corinthiens 4, 13. Et comme nous avons le même esprit de foi, selon ce qui est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, et c'est aussi pourquoi nous parlons. La bénédiction est venue. Et quand est-ce qu'elle est venue, la bénédiction? Quand est-ce que la pluie est arrivée? Ce n'est qu'après que le peuple ait confessé l'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu, que la pluie est arrivée. C'est après que le peuple a confessé le vrai Dieu que la bénédiction est arrivée. La pluie est arrivée, ça signifie aussi la fin de la famine. Et vous avez remarqué, quand est-ce que la pluie est arrivée? Oui, c'était après la confession du peuple, et c'était après la prière de Élie. Élie a encore prié. Et comment il a prié? Après tout, puisque Dieu peut embraser l'eau, il peut faire revenir l'eau de pluie à sa parole. Et c'est dans ce sens qu'Élie a prié. Élie priera avec persévérance, la tête entre ses genoux. Il n'a même pas pris le temps de regarder le ciel, il a envoyé son serviteur aller voir s'il y avait des nuages qui arrivaient. Il l'a envoyé 7 fois, et ce n'est qu'à la 7e fois que son serviteur est revenu en disant « Petit nuage, un tout petit nuage qui arrive et qui s'est transformé en une pluie battante avec un ciel complètement noir. » Suite à la prière d'Élie, Élie a prié la promesse de Dieu, ce que Dieu avait promis, et ça s'est accompli. Et il est un exemple pour nous. Alors dans la vie, oui, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut savoir ce qu'on veut et il faut le vouloir. La persévérance d'Élie dans la prière, qui était un homme comme nous, nous interpelle. Est-ce que nous voulons vraiment ce que nous demandons? Amen, je vais prier. Seigneur, merci encore pour ces récits qui sont dans ta parole, qui sont vrais. Seigneur, tu es le même Dieu du temps de Élie et aujourd'hui. Tu n'as pas changé, Seigneur. Tu peux faire des prodiges. C'est toi le vrai héros de l'histoire, Seigneur. Et ce que tu attends de nous, tu nous fais la grâce d'être tes collaborateurs dans la prière, de prier et de vouloir aussi ce que nous te demandons. Nous avons tellement de sujets, Seigneur, tu connais les sujets des uns et des autres. Seigneur, donne-nous de persévérer dans la prière, de ne pas nous lasser. Seigneur, tu nous le dis dans ta parole. Et merci de nous donner aussi des encouragements pour continuer, pour persévérer dans la prière. Élie ne s'est pas lassé. Il a continué, il a prié. Et la petite image est arrivée. Seigneur, tu veux nous rendre partenaires de ton œuvre. Donne-nous d'être fidèles. Donne-nous de vouloir ce que toi tu veux, Seigneur. On a besoin que tu embrases nos cœurs. Que tu nous donnes vraiment cet esprit de prière pour notre monde qui se perd. Tu vois, Seigneur, combien le mal augmente. Mais Seigneur, tu veux nous utiliser, ton Église, pour briller, continuer de briller dans ce monde. Parce que tu as un plan, Seigneur. Donne-nous d'être à notre place, fidèles, Seigneur. Et donne-nous des encouragements à continuer à prier, Seigneur. Parce que tu réponds. Oui, merci. Tu nous l'as encore montré aujourd'hui. Merci. Merci Seigneur pour l'Église, pour notre Église, et que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous propose de prendre pour terminer le chant « Brille au Jésus ». Je ne sais pas quel numéro c'était. Okay.